7h05 exactement sur les ondes de Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin. Je vous le rappelle, lancement officiel de notre programmation d'automne cet après-midi, 16h, dans le retour de Gravel, avec notre directeur de programmation, Steven Croiteau. Des excellentes nouvelles pour vous, chers auditeurs, j'en suis convaincu. Max Circulation?
C'est moins pire à matin, je vous dirais, là, par rapport au dernier jour à la même heure. C'est sûr que l'accès au pont Pierre-Laporte, quelques petits problèmes, mais c'est vraiment pas catastrophique. Même Capitale, ça va assez bien. Là. Peut-être un petit ralentissement avant l'avenue du Beau-Royal, mais rien de trop grave. Il y a Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, où c'est assez compliqué. Mais sinon, Henri IV, ça va super bien. Laurentienne aussi. C'est moins pire à date.
À la météo, c'est 10 degrés à l'heure actuelle, 21 degrés de la pluie aujourd'hui, 16 degrés avec possibilité d'averse pour vendredi, 20 degrés avec possibilité d'averse pour samedi. Dimanche et lundi, c'est ensoleillé pour le long week-end, 22 et 24 degrés. Je le disais d'entrée de jour, on a les meilleurs collaborateurs ici à Boulevard 102.1. Et parmi les meilleurs, on a l'ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferland, qu'on attrape au bon ce matin au téléphone, parce qu'il va aller donner un cours au cégep Garneau avec les nouveaux policiers à 8h. Roger, comment ça va, mon ami?
Bonjour, monsieur, ça va très bien. Puis en passant, là, vous ne pourriez pas assister à mon cours un matin, je vous regarde sur Twitch, les gars. Pas de calotte en classe, les boys.
Pas de calotte en classe? Ouais, hein? Oh, alors c'est une invitation, twitch.tv/blvd/fm. En effet. Hey Roger, quelle petite parenthèse, tant qu'à ça, comment ça va avec les nouveaux étudiants cette rentrée scolaire?
Ça va très bien, une super rentrée, une belle batch, je vous dirais, cette année, des élèves très motivés. Puis on repasse à la case départ, par contre, pour essayer de les amener plus loin dans leur compréhension du travail, mais je suis vraiment là, très, très content. À matin, c'est le dernier groupe qui me reste à voir dans la nouvelle cohorte qui termine cette année en troisième année, là, mais... Mon dernier groupe, tantôt à voir.
Ah, je suis non bien content pour toi, Roger. Roger, est-ce une surprise pour toi, cette bombe qui est tombée ce matin à l'effet que l'UPAC enquête très, très, très sérieusement sur la SAG dans le dossier Saclic et la police a identifié 4 suspects soupçonnés d'une série de crimes, dont un fonctionnaire soupçonné de corruption. Surpris ou non?
Non, pas vraiment, mais je suis content de voir que l'UPAC s'enligne pour peut-être arriver vers des accusations là-dedans. Parce que c'est toujours la crainte qu'on a quand on voit ces grosses commissions d'enquête-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être responsable tantôt? Puis l'équipe d'enquêteurs de l'UPAC, eux autres, leur rôle, c'est d'enquêter officiellement sur des crimes directs. C'est pas juste d'en faire une enquête publique, mais bien d'avoir des faits, de corroborer ces faits-là, puis d'arriver après ça avec des possibles accusations pour des gens qui ont profité, parce que ça se peut pas que cet argent-là est parti dans le vent, là, puis c'est pas IBM ou je sais pas quelle autre entreprise qui en a uniquement bénéficié, mais il y a des gens qui ont mis de l'argent dans leur poche là-dedans, assurément. Mais il faut que tu puisses prouver le stratagème. Puis ce qu'on voit un matin, ce qu'on peut lire dans la presse, c'est qu'il y a au moins 4 personnes dans la mire, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Il y a un très grand privilège qui existe pour faire certaines perquisitions. Tu ne peux pas, par exemple, perquisitionner facilement des officiers de justice. C'est déjà plus compliqué. C'est compliqué de perquisitionner n'importe où dans la résidence de quelqu'un, mais les officiers de justice, c'est compliqué parce qu'il y a le privilège avocat-client. Puis dans la catégorie officier de justice, je rentre avocat, mais je rentre aussi les notaires. Alors, si jamais je veux débarquer dans un bureau de notaire pour trouver de quoi, ou dans un bureau d'avocat pour trouver de quoi, ben, il faut que je fasse mon annonce, que j'explique qu'est-ce que je vais aller chercher, pourquoi je vais aller chercher avec les faits à l'appui, et ensuite, un huissier de justice va se présenter, désigné par le bureau des notaires ou le bureau des avocats, du barreau, et il va venir tout valider les documents, et on va d'abord, dans le premier temps, identifier tous les documents qui s'y trouvent, et après ça, ils vont me permettre d'avoir accès à certains documents uniquement s'ils sont bel et bien explicités dans mon mandat de perquisition. Alors, c'est très long et très complexe. Mais là, ce qu'on comprend ce matin dans la presse, c'est que Martin Després, qui au départ était informateur de police, a accepté de témoigner sous son identité, a révélé des choses, et ces informations-là deviennent des faits maintenant que les policiers entendent et doivent aller corroborer. Si c'est le cas, ben c'est sûr que ça va peut-être permettre d'arriver à des accusations. Mais c'est extrêmement complexe, pour ne pas dire très long à faire comme démarche dans ce cas-là.
Mais justement, Roger, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi le privilège avocat-client, pourquoi on a ça en place, qu'est-ce que ça amène concrètement?
L'achat des droits et libertés permet en fait d'avoir droit au silence, mais permet également, plus loin, ils ont apporté que tu as le droit d'avoir les conseils immédiats d'un avocat. Et pour ce faire, l'avocat devient un conseiller, un genre de conseiller, non pas moral, mais bien factuel dans les informations qu'il va te donner, compte tenu de ce qu'il reçoit. Très souvent, et je vous dirais, puis là je vais pas me faire des ennemis chez les avocats, mais même s'ils sont officiers de justice, ils n'ont pas toutes nécessairement... En tout cas, ils ont une conscience élastique dans certains cas. Alors, il se peut qu'on leur donne de l'information, puis qu'ils conseillent après ça le client d'une façon à juste contourner ou contrecarrer certains éléments de la loi. C'est sûr que c'est le travail des avocats, en fait, de faire avancer le sens juridique, puis ça, je le conviens, c'est parfait. Mais quand je vous parle de conscience élastique, à un moment donné, il est possible pour eux également de traverser la ligne. Mais quand c'est le cas, nous, il faut qu'on fasse la démonstration. Mais avant de pouvoir me rendre dans son bureau, là, au départ, je vous le dis, perquisitionner un bureau d'avocat, pour nous, une police, c'est comme, au départ, impossible. C'est possible, mais ça demande plusieurs étapes avant de franchir, avant de se rendre.
Et quelles sont ces étapes-là, Roger?
C'est celle que je décrivais un peu tantôt. C'est qu'on doit, dans le premier temps, puis là, voyez-vous, la trame de mandat de l'enquêteur Tondreau de l'UPAC,
oui.
On la voit, là, les gens de la presse ont mis la main dessus. Alors, il voit son texte, il voit son écrit, il voit ses paragraphes, il voit tout son argumentaire légal pour dire « je veux me rendre dans les bureaux de, on va dire, SACLIC, là, dans les bureaux de la SAC pour aller récupérer tel document. » Et tels documents sont présentement sous le contrôle peut-être de tel ou tel avocat. Parce que les avocats, eux autres, ont donné des conseils juridiques tout au long que les actions se faisaient. Que ce soit l'obtention de contrat, les redditions de comptes qui devaient se faire, qu'est-ce qui allait se passer si telle ou telle action se déroulait ou ne se déroulait pas, là. Il y a souvent des conseils juridiques qu'on voit faire, que va vous dire, comme un peu, il agit comme un agent de joueur dans le sport, en conseillant, puis après ça, en s'engageant pour donner ses conseils. Mais on n'est pas capable d'avoir accès aux conseils dans un premier temps. Il y a un privilège toujours de ça.
Ouais.
Tu as le droit, c'est protégé, ça, c'est le plus haut privilège qu'on a. Mais si on peut penser, mais penser, c'est passer. Si on est capable de faire une démonstration, qu'on pense que, encore là, je parle le terme penser, que l'on allègue qu'il y a eu une infraction criminelle et que la personne a été mal intentionnée, là, ils vont nous permettre d'aller vérifier si ce document-là est bel et bien là.
Alors, c'est cette preuve-là que l'enquêteur Tondreau doit être capable d'amener, justement.
Exactement, puis toute son équipe aussi. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent. En ce moment, ce qu'ils expliquent dans le document, c'est que là, il y a des avis juridiques de l'autre côté, du côté de la SAC, qui disent non, on vous empêche d'aller là, puis on vous empêche de mettre la main sur ces documents-là. On sait, nous aussi, c'est toujours la crainte après de se dire, est-ce que ce document-là va encore exister tantôt, ou tu vas avoir flushé ton ordinateur, ou tu vas avoir flushé tes données informatiques, tu vas avoir fait disparaître les papiers. C'est toujours la crainte qu'on a, d'où l'importance des fois d'agir rapidement. Même si dans l'informatique, on est capable de récupérer les traces antérieures, même si quelqu'un a nettoyé son ordinateur, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe.
Tu parles de l'importance de faire ça rapidement. Là, on est rendu 2 mois plus tard, là, puis on nous parle du fameux tri de « OK, qu'est-ce que les autorités peuvent avoir puis qu'est-ce qu'ils peuvent pas avoir? » Bien là, ce tri-là est pas fait. Puis l'enquête peut pas progresser. Y a-t-il un certain délai qu'on donne pour dire, OK, là, telle date serait le fun que le tri soit fait puis qu'on puisse faire notre enquête?
Bon, oui, tout à fait. La façon que c'est fait généralement, là, on va dire, allez me saisir ces documents-là. Ils vont dire, go, OK, mais ils placent tous les documents sous scellé. Alors, on sait que les documents existent, mais après ça, s'installe un combat juridique de dire, est-ce que je vous donne accès ou pas? Et là, il va y avoir un tri, un essayage de tous les documents qui vont se faire un par un par...
Mais au moins, les documents ne sont pas détruits, Roger. Ça, tu nous rassures là-dessus.
Ben c'est ça. Voyez-vous, c'est ce que j'espère en ce moment. Dans le document, en ce moment, dans l'article de la presse, on n'est pas capable d'avoir cette réponse-là. Mais généralement, ce qu'on fait, ça va être comme je vous le décris là. On y va, on saisit ou on gèle ces documents-là. Mais quand je vois que j'arrive... Je vous le dis, quand on arrivait sur un document qui était marqué document d'avocat ou document de notarié, peu importe. Là, je tombais pris avec un privilège de plus. Officiellement, j'avais pas le droit de regarder ce document-là. Moi. Là, il fallait qu'un autre officier de justice passe dessus. On scelle le document, ils le mettent de côté. En théorie, les documents présentement ne devraient pas être accessibles pour une destruction si ça a été fait selon les règles de l'art. Mais c'est complexe, comprenez-vous, là.
Ben oui.
Il fallait déjà qu'on sache que le document existe. Il fallait déjà qu'on ait prouvé encore plus que juste une demande normale de perquisition. Il fallait qu'on prouve le très grand privilège. Puis là, s'installe tout un jeu d'avocats. Puis là, les avocats, d'autres avocats vont avoir le droit de défendre cet avocat-là pour dire, OK, on va regarder le document. Puis là, ils vont alléguer. Puis là, s'installe tout un combat juridique à savoir est-ce qu'il est dans l'intérêt public ou l'intérêt de la justice de le savoir ou pas. Puis là, ils vont prendre le temps de regarder ces documents-là et toutes les choses. C'est un peu similaire, je vous dirais, dans le cas d'un juge qui pourrait être corrompu, ce qui on va faire de l'écoute électronique ou un avocat, ce qui on fait de l'écoute électronique. C'est très complexe. Tout. Ce qu'on va avoir accès va avoir été déjà passé par un filtre, par d'autres juges ou d'autres avocats indépendants avant nous.
Entendre l'ensemble des communications téléphoniques, tu vas entendre seulement ce que les juges vont avoir passé dans le filtre.
Exactement. Okay. Alors, jamais tu vas avoir accès à la totalité. Mm-hmm. Fait que des fois, tu te dis, il y a peut-être d'autres documents qui vont nous échapper. Mais là-dessus, il faut faire confiance aux autres officiers de justice. Puis ça a été le cas à plusieurs reprises dans ma carrière. On l'a vécu dans Shark. On l'a vécu dans certains meurtres au moment donné. On l'a vécu dans le projet Mago Mastiff à Montréal. Très gros projet où est-ce qu'un avocat criminaliste avait profité de son bureau pour permettre aux gens du crime organisé, vraiment les têtes dirigeantes en haut de toutes les organisations, de se réunir dans son bureau et de laisser entendre que c'était des réunions secrètes avocat-client. Mais il permettait que son bureau devienne un lieu qui allait devenir un lieu de meeting à l'épreuve de la police, en fait. Mm-hmm. Mais on a fait cette démonstration-là déjà dans le passé. Puis on a réussi à perquisitionner, puis écouter ce qu'ils disaient, et c'est là qu'on a appris. Mais ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir des réponses, qu'ils se faisaient des meetings secrets d'une table qui négociait le prix du kilo de cocaïne entre toutes les organisations au Québec.
Pour rappel, on parle avec Roger Fernand, ex-enquêteur du SPVQ. On parle justement de cette enquête de l'UPAC sur Saclic et les gens de la SAC. 4 suspects seraient dans la mire de l'UPAC. Roger, c'est Éric Ducharme, l'ex-PDG de la SAC, qui va être à la commission Galant aujourd'hui en témoignage. À quel point cet article-là de la presse peut venir changer la façon de faire à la commission Galant aujourd'hui avec M. Ducharme?
Ben là, ce qui se produit, c'est que là, de plus en plus, il y a des enquêteurs de l'UPAC qui écoutent dans la salle. Alors, ils deviennent témoins des informations qui y sortent. Là, en ce moment, avec de telles informations, avec les mandats de perquisition qui sont faits, les documents qui se récupèrent, je dirais, à chacune des journées, on devient de plus en plus précis pour poser des questions aux témoins et rendre publiques certaines informations qui, présentement, sont possiblement toutes par informateur ou sont toutes cachées. Puis c'est ça qui devient précieux. Fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne arrive dans la boîte, là, on est capable de dire, « Hey, t'es courant de ça? T'as-tu ça? Puis voici le document, puis là, tu y prouves. » Alors là, tu peux te ramasser avec des gens qui peuvent se ramasser peut-être tantôt à faire attention pour ne pas témoigner faussement, faire un faux témoignage, fabrication de preuves, peu importe. Ils sont toujours sujets à ça. On s'entend, les gens vont là volontairement. Ben, pas volontairement, ils sont forcés, mais ils doivent dire la vérité.
Oui,
mais tantôt,
ils sont sous serment. Là.
Ben oui, tantôt, tu peux te faire confronter avec certains documents, mm-hmm. puis que te faire dire 2 secondes, là, t'es pas juste un outrage au tribunal ou d'avoir fait un faux témoignage. On est capable de démontrer tantôt certaines actions officielles avec des faits à l'appui. Mais c'est pour ça, nous, comme policiers, c'est full utile d'avoir des informateurs dans le travail policier de toutes sortes, surtout dans le crime organisé, puis surtout dans les grosses fraudes de ce genre-là. C'est souvent des employés sur place qui te décrivent le stratagème, qui te permettent de le comprendre, et après ça, par contre, c'est parfait. Veux-tu témoigner? Non. Ouf! Là, il faut le prouver. Alors, le prouver, c'est avec des faits. Alors, on reçoit l'information, c'est une allégation au départ, qui a sa valeur probante, mais comme ce n'est pas un témoin officiel, il faut toujours corroborer. C'est pour ça que la marche et le travail des gens de l'UPAC, c'est phénoménal, c'est épouvantable.
C'est pour ça qu'en tant que public, en tant que citoyen, on trouve ça vraiment long, mais dans le fond, il y a énormément d'explications pourquoi c'est long.
Tout à fait. Puis je vais être très honnête, là. Travailler les fraudes et les crimes économiques d'envergure de ce type-là.
C'est plus difficile que des crimes criminels, hein, Roger?
Ah oui, moi, ça me pesait terriblement. J'aimais beaucoup mieux travailler un trafiquant de stupéfiants ou même n'importe quel autre dossier parce que c'était assez, je vais prendre un terme, steak, bledagne, patate. Ça allait assez bien. Là, t'as pas mal d'impondérants qui rentrent en ligne de compte. Ça devient lourd et compliqué.
Il y a pas mal plus d'ingrédients dans ton pâté chinois, c'est ça que tu nous dis?
Avouez-moi, ça m'agaçait drôlement. Je me disais, tabarnouche, mon teint est plus précieux que ça. Mais ça nous prend des enquêteurs extrêmement minutieux, des gens très rigoureux, rempli d'éthique, puis c'est ce qu'on a en ce moment dans les équipes anticorruption. L'UPAC, tout ça, des fois, on a l'impression qu'ils font un peu pouet-pouet, là, tu sais. Caroline, pourquoi vous aboutissez pas, les gars? Mais quand je parle avec des enquêteurs, ils me disent, Roger, t'as pas idée de comment le travail est rendu, puis la difficulté, puis ce qu'on a. C'est des moines, là. Je vous dis, dans leur façon de travailler, là, c'est pas juste, par l'expression, quelqu'un qui vient de faire ton sermon en avant, là. C'est le moine qui travaille en arrière, qui est minutieux puis qui prend beaucoup de méthodes parce que ces phénomènes-là sont plus complexes un petit peu.
Roger Ferland, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Il est ex-enquêteur au niveau du SPVQ. Il est enseignant en technique policière au Cégep Garneau. Merci d'avoir pris le temps avec nous ce matin et on te souhaite une excellente journée d'enseignement, mon ami.
Le temps, messieurs. Merci beaucoup. Bonne journée.
Salut.
Bonne journée
aux auditeurs
de Québec. Salut Roger, bonne journée. Alors c'était Roger Ferland, on adore discuter avec Roger. Donc enquête très complexe. Max, ce que j'ai aimé dans ce que j'ai entendu à la fin, c'est que le témoignage d'Éric Ducharme va avoir de l'impact non seulement pour la commission Galland aujourd'hui, mais pour l'UPAC qui va écouter attentivement ce témoignage-là pour continuer dans son enquête.
Puis ça c'est intéressant parce que j'aurais pas été surpris pantoute d'entendre, d'apprendre que ouais non c'est parce que c'est vraiment deux choses différentes puis là
aussi,
va falloir qu'ils témoignent devant les autorités à part et là ils peuvent pas retenir en preuve ce qu'il va dire aujourd'hui. T'sais, on s'entend, personne n'aurait été surpris de ça là.
T'sais, non, du tout, parce que la commission c'est pas la justice, c'est deux choses différentes, ça va servir à faire un rapport pour le gouvernement, l'autre sert à mettre des criminels en prison. T'sais, là, je le mets à sa plus simple expression, mais c'est ça qu'on aurait pu entendre.
Exactement, fait que ça, c'est très c'est rassurant à entendre qu'il y a un travail qui n'est pas obligé de se faire en double. Maintenant, ben, ce serait le fun que l'enquête de l'UPAC puisse avancer puis que les documents, puis le niaisage de « ouais, tu peux pas voir lui, puis lui, mais lui, tu peux, mais pas lui, mais lui. » Mais en attendant, tant que ce tri-là se fait pas, ça peut pas avancer.
Exactement, il n'y a pas d'enquête criminelle. C'est ça qui est dérangeant dans le dossier à l'heure actuelle.
Ben, c'est fâchant parce que on a quatre suspects. Là. Pour les considérer suspects, je pense qu'on a...
Bien, on a accumulé des preuves assez solides.
Mais là, ces preuves-là qu'on avait, qu'on a peut-être plus, qu'on ne sait pas si on va revoir... Imagine, on arrive que finalement, là, on apprend ça ce matin, quatre suspects, on se dit « OK, il y en a qui vont peut-être payer, good. » Puis là, mettons, là, dans une couple de semaines, une couple de mois, là, on nous dit du côté des autorités, finalement, là, à cause du privilège avocat-client, le tri qui a été fait, on n'a pas assez pour déposer des accusations. Puis là, on va avoir la question en arrière de la tête de « ah ben, tabarouette! »
La SAC s'est protégée.
Il y avait fort probablement des motifs pour des accusations. Et là, il n'y en a plus. Parce que les documents qui devaient servir de preuve pour au moins des accusations ne peuvent pas être utilisés.
Oui, deux choses dans ce que tu dis. Il faut jamais oublier que la SAC, c'est une société d'État, oui, qui est autonome, mais qui est quand même financée à même les impôts et les taxes des citoyens, donc quand même les denrées publiques. Ils ont dépensé plus de 500 millions de dollars présentement dans leur transformation numérique, plus de 500 millions de dollars additionnels, ce qui amène à 1,1 milliard. Et Éric Ducharme, qui sera justement à la commission Galland aujourd'hui, l'ex-PDG de la SAC avait déclaré lorsque l'UPAC est débarqué dans les bureaux le 18 juin dernier, la SAC va faire preuve de transparence. On repassera la transparence, M. Ducharme?
Oui.
On repassera. Problème de circulation.